Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Pongiste.
Pongiste, exactement.
Ça s'appelle comme ça?
Ah oui, les personnes qui pratiquent le tennis de table s'appellent des pongistes.
Je savais pas.
Est-ce
bah
que
oui,
t'es un peu émue d'avoir en face de toi une pongiste?
Bonjour!
La même note.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans LMK, le podcast du kiff et de la digression. Et bonjour plus particulièrement à la personne qui est à ma droite, qui est notre invitée exceptionnelle pour ce nouvel épisode de LMK. Salut Pauline Grisoni.
Salut!
T'es pas obligée d'avoir ce ton à chaque fois, sache-le.
Je sais pas, j'essaie de...
Sache-le, Pauline, bienvenue, on est ravis de t'accueillir dans le podcast. Et quand je dis on, c'est évidemment moi-même, mais Ariane, qui est
Coucou.
À ma gauche, et Anthony.
Hello.
Et puis Fanny, évidemment, qui n'a pas de micro pour nous répondre, mais qui est là, que vous entendez peut-être un petit peu en fond. Donc effectivement, dans cette semaine, dans le podcast, on a une invitée un peu exceptionnelle, Pauline. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots et nous dire qui tu es, d'où tu viens? Pauline, tu as un super podcast que nous, on adore à la rédac. Peut-être dis-nous deux mots.
Ok. Alors, bonjour tout le monde. Je suis podcasteuse, animatrice et j'essaye, du moins en ce moment, j'écris du stand-up. Donc, je me dirige peut-être vers ça ou peut-être pas, je ne sais pas encore. J'ai un podcast qui s'appelle La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Je reçois des personnalités, des chefs, des acteurs, des musiciens qui me parlent d'un échec et de la leçon de vie qu'ils en ont tirée. On rigole bien et il y a un petit fond intelligent à choper à la fin. Voilà, c'est comme ça que j'ai créé le podcast.
J'avoue, en tout cas, on peut toujours en tirer une leçon,
voilà,
c'est
exactement.
Le cas de le dire, sans vouloir faire de jeu de mots.
J'avais adoré l'épisode avec Cédric Grolet et plus avec Pierre Armé. Mon gâteau préféré sur Terre, c'est Vispahan. Et savoir que ça procède d'un échec, ça m'a fasciné.
Enfin, wow, ouais. En plus, c'était un bon parce que c'était c'est des épisodes qui datent d'il y a 3 ans, 4 ans.
J'écoute
cool.
énormément de podcasts. Mais je crois que récemment, je t'ai entendu dans La Chamade. Mais je crois
ah
que je
oui,
dit,
oui, oui.
Ah non, je l'ai dit en tu, off tu parce qu'on devait baptiser qui serait l'invité.
Enfin, ouais, on a passé 15 minutes sur est-ce qu'on tease, est-ce qu'on tease pas. Enfin, comment on dit que tu vas venir. Et t'en as fait aussi un livre.
Ouais,
ton podcast.
Qui s'appelle Fiasco aux éditions Hugo Doc. Et alors là, on prend un peu de recul. On y va par thème, sport, santé, amour, etc. On réfléchit avec des témoignages, évidemment, des invités du podcast, mais pas que, à toutes ces leçons de vie qu'on peut en tirer. Et puis, on parle de l'échec aussi à travers le temps, des grands échecs de l'histoire. Et c'est un livre qui est facile à lire et qui, je pense, est chouette.
Et qu'on peut se procurer dans toutes les meilleures librairies indépendantes ou sur les sites de grands
distributeurs
aussi.
Exactement.
Trop bien. Alors, avant de commencer cet épisode, on commence toujours l'épisode par une question. Une question jamais très sérieuse, à vrai dire, qu'on va te poser, justement.
Ok, waouh.
La question cette semaine, c'est quel déguisement de Halloween es-tu ?
Oh, game on.
Alors, je sais pas si tu as fêté Halloween, si tu as eu une soirée d'Halloween ou pas. C'était Halloween récemment, ce podcast sort un peu après. Quel est ton déguisement d'Halloween ? Quel déguisement d'Halloween es-tu ?
Ok, alors je suis un peu frustrée parce que là, c'est que de l'audio. Parce que j'avais un punaise de déguisement cette année avec une très très bonne copine. Vous avez vu la série Ratched ou pas sur Netflix ?
Non.
Ok, bon, ça se complique un peu. Heureusement, j'ai des images. Merci la technologie. Cette année, je me suis déguisée en nurse des années 60 dans un hôpital psychiatrique.
Wow.
Donc, mi-sexy, mi-weirdo. Je crois que c'était approprié.
C'est clairement très spécifique, oui.
Attendez, je vais vous montrer. Sur Instagram, j'ai fait un petit reel en disant que j'avais gagné Halloween et que j'étais désolée, mais pas tant que ça. Wow. C'est cool, non ?
Mais j'adore. Ouais.
Et c'est par le créateur d'American Horror Story.
Wow.
Pardon. C'est une mini-série qui s'appelle Nurse Ratched et qui est géniale.
Ok.
Donc voilà.
Et t'as trouvé comment ton...
Par un petit distributeur indépendant qui s'appelle Amazon.
Aïe, aïe, aïe.
On comprend pas ce moment. Pas,
non.
Pas,
voilà, trop c'était bien. La minute écologie.
Ok. T'inquiète, ça nous arrive à tous et
ouais,
à toutes.
Ouais, ouais, ouais.
Pas de culpabilité, mais trop stylé.
Donc voilà, moi, Nurse Ratched, et vous ?
Ok, et eh ben, Ariane, tu sais quoi ?
Alors, moi, je fête très peu Halloween, déjà.
Ah !
Ah ouais, non,
on sent pourtant, qu'il y a des principes.
Pourtant, j'adore me déguiser. C'est vraiment le... La... Et je pense que la meilleure, le meilleur moment, c'est quand tu penses à ton déguisement, que tu y réfléchis et que tu trouves l'idée. Je trouve que c'est vraiment le meilleur moment. Mais, du coup, je ne fête pas Halloween cette année, comme d'habitude. Cela dit, j'essaye toujours de trouver, quand il faut se déguiser, des déguisements un peu drôles. Mmh. C'est un peu ma ligne édito. Il faut que ce soit un peu drôle, quitte à ce qu'on ne reconnaisse pas forcément au premier abord, et que ensuite je dise mais si enfin c'est machin, et que les gens me disent ah ouais putain c'est hyper voilà, c'est toujours un petit peu recherché, mais là j'ai pas d'idée vraiment précisément de déguisement que j'ai pu faire qui était drôle. Mais globalement ma DA c'est être drôle, c'est-à-dire me déguiser en un mème par exemple, ou des choses comme ça.
Trop faire marrant, rire
ça.
Les gens,
faire rire les gens, et du coup pas forcément de déguisement horrifique hein, mais juste drôle, voilà.
Ok, trop bien, j'aime ce concept. C'est cool aussi de rire.
Oui, j'adore.
J'ai un souvenir d'une année où je m'étais dit, vas-y, je pars dans un déguisement drôle, machin. J'étais en combinaison de panda énorme et tout, trop marrant. Et puis après, je suis rentrée et là, mes potes ne m'accompagnaient plus et j'étais toute seule dans le métro et j'avais oublié de prendre une rechange.
Ah, merde.
Et vraiment, j'ai ce souvenir-là de m'être dit, putain, c'était cool à l'aller, au retour, c'est grave là, on est solo.
Trop drôle.
Bon, l'avantage, c'est que parfois, tu croises des gens aussi...
C'est
plus
bien
que
soir.
Toi ou, ouais. Ou Glow qui était là genre « Coucou, toi aussi, tu rentres tout seul ?» C'est gênant.
C'est clair, c'est clair.
Et toi, Anthony, c'est quoi ton déguisement ?
J'adore Halloween, j'adore me déguiser. Je trouve que c'est un peu la fête la plus fashion de l'année, avec le carnaval. Mais je suis toujours un peu comme dans... Comment ça s'appelle ? Mean Girls. Genre, en fait, je veux juste être sexy, c'est tout.
J'adore
I'm a mouse, da. Là, je crois que par Lara Croft, pour la cinquième fois de ma vie. Mais sinon, j'ai fait Catwoman l'an dernier. Enfin, j'ai fait plein de trucs bizarres.
Mais c'est trop drôle.
Mais j'adore ça. Donc ouais. Voilà, un déguisement, c'est un prétexte à s'habiller comme tu n'oses jamais le faire dans le reste de l'année.
Mais t'as raison, c'est un moment vachement fashion. Moi, j'avais pas fashion. Moi, j'avais pas capté ça jusqu'à ce que t'écrives un article l'année dernière sur. C'était toi qui avais écrit les meilleurs déguisements des people.
Ah oui, oui.
Ouais. Hein,
mais et... tout le monde fait ça maintenant.
Ouais, mais voilà. Ouais. Mais il y a des trucs tellement poussés. Franchement,
ah oui,
alors,
ouais. Oh, c'est Heidi Klum.
Pas, mais... Heidi Klum, reine d'Halloween.
Incroyable.
Elle était en quoi déjà ?
Elle a tout fait. Elle.
En fait, chaque année, son truc, c'est de faire vraiment la plus grosse soirée d'Halloween d'Hollywood. Et elle repousse les limites. Enfin,
je crois qu'elle était déguisée en verre ou en asticot. Et Tom Collins, son mari, en pêcheur. Mais du coup, elle se déplaçait en rampant et tout, en asticot, mais hyper réaliste. Hyper
mais ça, tu fais pas des croyances quand même.
Ouais,
parce que pour aller boire ton verre
c'est
derrière.
Elle fait toujours des choses complètement folles. Enfin,
énorme.
Mais Rihanna est très douée aussi. Elle avait fait les Tortues Ninja une
fois.
Ah ouais,
je savais pas.
Mais après, aux États-Unis, c'est très différent. C'est beaucoup moins horrifique.
Ouais.
Et toi ?
Bah, moi, ça fait longtemps que j'ai pas fêté Halloween pour cause de parentalité. Donc,
bientôt, c'est toi qui vas les fêter avec tes enfants. Non ?
Exactement. Et en vrai, j'ai trop hâte d'aller chercher des bonbons. Avec ma fille, bon, c'est pas pour tout de suite parce qu'elle a 2 ans et demi, mais bientôt. Et en revanche, elle, je lui ai pris un déguisement pour la crèche.
J'adore.
Parce qu'ils se sont déguisés. Elle était déguisée en citrouille.
Oh, trop mignonne.
Avec vraiment le haut de la citrouille en tant que chapeau.
Oh non.
Et là, je suppose pas garder très longtemps. Et moi, je suis assez nulle en déguisement d'Halloween. Enfin, assez nulle dans le sens où je suis pas très originale. Genre petite, je m'habille en sorcière, quoi. Et c'est tout. Et puis.
Ouais, mais tu devais te sentir tellement badass.
Ah ouais, grave. Ça. Ouais, grave. En vrai, je me sentais hyper badass. J'avais l'impression de vraiment pouvoir jeter des sorts aux gens.
Ouais.
Notamment à ceux que je n'aimais pas. mais voilà, les derniers Halloween que j'ai fait, en fait, à chaque fois, c'était pas très original, mais je me déguisais en fêtarde morte. Enfin, la meuf, tu vois, dont la soirée a mal tourné et qui est du coup en tenue. Je pense que ça rejoint un petit peu ce que disait Anthony aussi. Au final, moins l'envie de faire peur que l'envie de se sentir un petit peu...
un peu bonne, quoi.
Un peu bonne, voilà. Ouais. Et juste, je rajoutais un petit peu de faux sang sur ma chemise un peu arrachée. et voilà, donc... pas forcément très original, mais ouais, je dois dire que je suis pas non plus une grosse fan. Je pense que j'aimerais plus le jour où je pourrais refaire avec mes enfants aller toquer au port chercher des bonbons, parce que j'en ai trop des bons souvenirs petites, ou je sais pas, genre en fait je crois que limite ce que je préférais c'était après quand tu mangeais tes bonbons et moi avec mes frères on se racontait des histoires qui faisaient peur et tu sais avec Bloody Mary devant le miroir et tout, et donc c'est
j'y
plus ce côté là
j'y crois encore.
Bah perso moi j'ai tendance à me dire faut pas tester, ça sert à rien, tu vois.
Ça va traumatiser les gens. Et là vous allez sortir une Ouija, c'est l'activité du jour, c'est horrible.
Non. J'en profite pour glisser ici que Charlotte Ars, qui est notre journaliste responsable des témoignages, a publié des recueils de témoignages flippants d'histoires paranormales.
Aïe, j'adore.
C'est en deux parties et franchement, allez les lire parce que c'est j'adore.
Enfin, ah ouais, c'est
si vous avez envie de vous faire peur gentiment quand même. Histoire paranormale, vraie, ou en tout cas.
Franchement, la partie 1 a été flippante. Après, je suis une grosse flippette, mais très flippant. Après, j'étais bien content de ne pas être sale chez moi en rentrant, quoi.
Mais en fait, moi, je crois que j'aime bien me dire au fond, non, mais c'est pas vrai.
Ouais, moi, j'y crois à fond. Moi, j'y crois. Enfin, c'est pas que j'y croirais quand j'y serais confrontée, et je suis un peu comme toi, je me rassure en me disant, non, mais de toute façon,
il y a toujours même des explications. Même quand ils croient pas, les gens qui croient au paranormal me font flipper. Genre, du coup, dans la partie 1, il y avait des personnes qui racontaient, oui, donc en fait, j'ai convoqué une sorcière pour qu'elle vienne purifier ma maison. Oui. Et je dis, donc en fait, ça se trouve, je prends le métro avec ce genre de personnes. Genre, ça me fait trop
peur. Ça fait très, très peur, les gens qui mettent le mauvais œil ou je sais pas quoi. Là, moi, j'y croyais pas à la base parce que c'est pas dans mes convictions personnelles. Mais ne serait-ce que l'idée qu'une personne soit là malveillante à essayer de te faire un sort ou je sais pas quoi,
terrifiant.
C'est terrible en fait.
Ouais, c'est vrai.
Voilà, ne faites pas confiance à vos proches. Moi je rigole.
C'est vraiment un épisode bienveillant.
Soyez seul. Mais... ne faites confiance à personne.
Mais moi j'y crois grave aussi, mais en revanche ça je suis très sceptique. Je crois que tu puisses vivre des événements paranormaux. Enfin, je viens d'une famille où clairement ma mère croit et a des récits, et je peux que la croire, c'est ma mère, de ce type d'expérience.
Moi, j'ai envie de savoir.
J'ai envie de partir, j'ai déjà peur.
Je te raconterai ça hors mic parce que c'est long.
Ah ouais.
Mais je donne juste un exemple, mais franchement, ma mère ne boit pas d'alcool, elle ne fume pas de drogue. Je le précise juste.
Le disclaimer.
Mais je me souviens petite. Mes parents avaient acheté une maison à la campagne, une vieille maison en pierre dans laquelle vivait une vieille dame décédée, donc enfin qui était décédée quelques temps plus tôt, très âgée.
Trouvée pendue dans le salon. Non. Mais vraiment, qui arrive. Bon.
Décédée de vieillesse. Et ma mère parfois, donc cette dame s'appelait Madame Bonnetin, et ma mère parfois elle me disait cette nuit j'ai vu Madame Bonnetin dans l'encadrement de ma porte.
Oh non.
Et j'étais allée maman, laisse-moi manger ma tartine de Nutella. Enfin. Tu vois, je sais pas, et que des trucs comme ça. Et dans ma famille, on fait beaucoup, beaucoup de rêves prémonitoires.
Aïe, aïe, aïe.
Moi, j'en fais aussi.
Ah ouais.
Ouais. C'est souvent. Et alors, c'était hyper intéressant parce que c'est souvent quand il y a des décès, malheureusement. Mais j'avais lu quelque part que c'est des choses qui sont très explicables. Qu'en fait, c'est ton cerveau qui capte des choses qu'on ne te dit pas ou qu'on ne te montre pas ou qu'on te. Des sortes d'énergie, par exemple, quelqu'un qui est malade et qui est en très mauvaise santé. Comme si
tu
avais des petits capteurs, Et donc, bref, de choses comme ça. Où moi, une semaine avant le décès de mon parrain, j'ai rêvé que je perdais une dent. Il y a ce truc de perdre dents ou tu perds un membre de ta famille. Je crois que je l'avais déjà dit dans LMK, mais il y a eu aussi une tentative de suicide dans ma famille et j'avais rêvé que j'avais une dent qui bougeait, genre une semaine avant vois.
C'est ouf.
Et après, j'ai fait le lien et je me suis dit, mais est-ce que, tu vois, c'est pas lié à ça? Bref.
Ouais, il y a des choses comme ça dans ma famille aussi, du côté de mon papa. Mon papa faisait aussi des rêves prémonitoires. Et lorsque mon grand-père est décédé, il s'est réveillé cette nuit-là. Ce grand-père-là était malade depuis des années. Hein. C'était pas, on l'attendait pas, ce décès-là. Il s'est réveillé à 6 heures du mat, en sueur froide, il a regardé son réveil, il a vu qu'il était 6h du mat, genre 6h05, un truc très précis. Il se rendort, mais il se rendort difficilement, mais vraiment il se réveille en sueur, quoi. Et à 8h, on l'appelle, mon grand-père était décédé à 6h05.
Non !
J'ai des frissons.
Ça me fait trop peur.
J'ai des frissons.
Ouais.
Ah là là.
Un accident de voiture est le plus dingue parce qu'on peut dire oui, on peut le mental est capable
de. Un accident de voiture en plus.
Il a fait un rêve prémonitoire d'un accident de voiture.
Non, oui. Mais il est décédé de sa maladie.
De sa mort. Voilà. Non, une autre fois. Pardon, je suis pas allée dans l'heure de mon histoire. J'étais trop excitée de dire la fin. Mon père fait un rêve prémonitoire d'un accident de voiture, dans la voiture de ma mère. Et le truc de dingue, c'est qu'on pourrait dire « Ok, mais il a provoqué un peu la chose. » Non, non, c'est la personne en face qui s'est endormie au volant. Donc, c'est pas à cause d'eux, en réalité. Il avait rêvé la veille de cet accident. Il avait pas envie de partir, il était pas serein. Ma mère était là, mais enfin, Philippe, t'es relou, mets une dernière clope, tu vois. Il faisait le tour de la maison. Ils prennent la voiture, bam, accident.
Putain, c'est un délire.
Ouais.
C'est ouf, je me demande si tu vois, c'est pas un truc de l'ordre de l'intuition ou de personnes qui ont une sensibilité peut-être. Mais en même temps, c'est des choses qui se passent dans le
Moi,
futur.
J'y crois,
quoi, donc,
j'y crois à 100%, mais après, je suis peut-être un peu too much ésotérique. Mais je pense qu'on pourrait presque qualifier ça de rationnel. C'est juste que la société n'a pas encore accepté ce pan-là de qui on est. Mais je suis plus ou moins persuadée que tout le monde peut le faire et tout le monde peut avoir ce truc-là.
C'est ouf, mais il faudra qu'on continue cette discussion.
Ah, j'adore, je peux en parler des heures.
Pareil. bien, sur un autre thème, c'est l'heure des kiffs, j'ai l'impression. Donc Pauline, je t'ai briefée avant que tu viennes sur le fonctionnement de l'émission. Et du coup, vu que tu es notre invitée d'honneur, je le répète encore, tu as la chance d'ouvrir le bal. Quel est ton kiff cette semaine ?
Je suis morte de rire parce qu'on parle d'accidents, de décès, de machin.
Mais oui.
Et là, je vais vous parler de ping-pong.
C'est vraiment un podcast génial. Qui n'a pas de sens.
En fait, j'ai réfléchi, j'avais parlé d'une série et tout. Et en fait, non, je vais vraiment être honnête et vous dire que je me suis redécouvert une passion à l'âge adulte et que ça me rend trop heureuse. J'adore jouer au ping-pong depuis toujours et mes potes, s'il y a une table en soirée et tout, je suis là, le ping-pong. Et les gens sont là, t'es relou, tu vois. J'étais un peu frustrée par ça parce que j'étais très dépendante des autres sur ce truc-là et que moi, ça me donne de la joie. J'ai l'impression de retrouver mon âme d'enfant. Et cet été, je me suis dit, bah, tu sais quoi, en fait, tu vas pas attendre les autres et tu vas t'inscrire à un cours de tennis de table.
Génial.
Pongiste,
exactement.
Ça s'appelle comme ça ?
Ah oui, les personnes qui pratiquent le tennis de table s'appellent des pongistes.
Je savais pas.
Est-ce
que
t'es un peu émue d'avoir en face de toi une pongiste ?
Je suis hyper admirative.
C'est vraiment, c'est génial parce que, alors c'est, je peux en parler des heures. C'est tellement ringard comme sport. C'est tellement ringard, je comprends pas parce que moi je m'éclate, mais c'est extrêmement ringard et je m'en fous. Et en fait, je m'en fous du regard des autres. Et j'arrive dans ce gymnase un peu dégueulasse avec que des gens renés qui ont 75 ans. Et en fait, je m'éclate. Et je suis trop fière de m'être trouvée à nouveau une passion. Et je me rends compte aussi. Alors, première chose, c'est vraiment. On oublie d'avoir des passions à l'âge adulte parce qu'on est vachement pris dans ce cercle de faut être social, faut avoir son taf, faut machin et tout. Ce petit instant de kiff juste pour soi, on le fait plus. On boit des coups, quoi. Mais
ouais,
on se fait pas, tu vois.
Et on se l'autorise pas aussi, t'as raison.
On se l'autorise pas du tout.
Dans nos emplois du temps de fou, ça semble dingue de se dire bah si je prends, je sais pas. Combien de temps ça dure un cours de tennis de table, mais peut-être 2 heures dans ta semaine consacrée qu'à ça.
Ouais. Et moi, je me dis, mais attends, les mecs, ils ont foot le dimanche, ça les dérange pas du tout. Ils sont là, bah, je reviens, je vais à l'entraînement. Et pourquoi les nanas, elles font pas ça, tu
ouais.
vois ?
Ouais, c'est clair.
Et donc voilà, et c'est génial parce qu'il y a aussi cet aspect-là un peu ringardou de ce gymnase où, clairement, on n'est pas du tout là pour performer. Je suis avec des gens hyper sympas, mais voilà, qui n'ont pas du tout mon âge. Et du coup, on n'est plus dans ce truc-là où on doit être un peu cool, on doit faire un peu gaffe à qui on est. Ou... J'ai l'impression qu'à Paris, il y a vraiment ça où tu vas à un cours de sport, les meufs, elles sont grave belles.
Ouais, Oui,
voilà, puis, tu vois.
Oui. Non, c'est clair. C'est les clubs un peu en vogue. Voilà. Où faut que tu ailles avec ta meilleure tenue.
Exactement.
Et que tu postes ta photo sur Instagram. Enfin, c'est limite plus un. Comment dire
une performance.
Ouais, bah, c'est ça. Ouais, une performance que juste je vais me faire kiffer et faire un cours, quoi.
Ouais, et s'amuser et rigoler. Moi, pendant une heure et demie, je me tape des barres. Je suis trop contente. Je rentre chez moi, je suis dans mon lit, je suis là. Oh, j'ai trop hâte d'y retourner. Et franchement, mais cette joie toute simple.
C'est génial, mais ouais.
Donc voilà, et le ping-pong.
Est-ce que tu vas boire des coups avec tes Jean-René de 72 ans après?
Franchement, j'aimerais bien vous y amener un jour parce que c'est... Waouh.
Ouais.
C'est un monde.
Ah ouais. Hier soir, j'ai amené un copain parce que c'était pendant les vacances scolaires, donc c'était jeu libre, anthropologiste.
Très bien.
Et là, j'ai découvert l'aspect un peu chonchon de certaines personnes. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour m'aider, en fait. Là, c'est sérieux, c'est entre gens qui pratiquent leur sport. On n'est pas là pour rigoler. Et moi, je cherchais une table et je demande est-ce que celle-ci est libre. Et en fait, non, il y a un ordre, une hiérarchie. Mmh. On m'a un peu envoyé chier. Enfin, ça m'a fait rigoler. Il y avait deux, trois mecs comme ça. Mais l'entraîneur est un amour de monsieur ultra féministe, trop chou. Et dans mon groupe, ils sont adorables.
Il y a beaucoup de femmes, justement.
Très peu.
Ouais.
Mais non, mais c'est dingue. Enfin, je comprends pas. Moi, je trouve que c'est trop cool comme sport. Mais en vrai... Allez, sur 50 personnes, il y a peut-être 3 nanas.
Ouais.
Ça m'étonne pas parce que j'ai babysité un petit pendant 2 ans et il était fan de ping-pong.
Ah ouais.
Lui, parce qu'en fait, dans le square où ils allaient jouer, il y avait une table de ping-pong.
Ah.
Donc en fait, au fur et à mesure, ils se sont mis à jouer au ping-pong, lui et ses copains. Et du coup, moi aussi. Parce que, parce que sinon, je me faisais chier, quoi.
Enfin, bah ouais.
Je restais 3 heures au square et puis je faisais rien alors que je pouvais jouer au ping-pong avec eux. En plus, j'étais trop content quand je jouais avec eux.
Toi, t'es payé pour faire du ping-pong.
Exactement.
Tu vois,
voilà, donc c'était super. Et l'année suivante, ses parents, ainsi que les parents de tous ses potes, ont décidé de les inscrire dans un gymnase pour pratiquer vraiment, avoir un cours, etc. Et il devait être, ouais, une 50aine d'enfants et il y avait 2 filles.
Ouais.
C'est un truc de fou.
Mais c'est dingue, ça m'intrigue trop, en fait. J'ai trop envie de savoir pourquoi. Est-ce que c'est, tu vois, les filles qui se disent c'est un sport de mecs, ou est-ce que c'est les mecs qui, en fait, bah, comme tu disais, peut-être avec leurs règles un petit peu, voilà.
Ah ouais, j'essaie de faire une étude anthropologique un peu quand je vais là-bas. Et j'en ai parlé aux profs de ça, parce que moi, mon fantasme, c'est à la fin d'arriver à smasher les gars et arriver en faisant « Ouh, désolé, je ne sais pas, et vra, tu vois !» Et le prof, il est exceptionnel parce qu'il était là « Je t'aiderai. » C'est vrai, je suis, ce mec-là est génial. « Je t'aiderai. »
Ça fait série Netflix, « Je vais te coacher jusqu'à ce que tu arrives. »
Vraiment. «
Million de dollars,
tu deviendras star. » Tu deviendras star des plongistes.
T'imagines comme ce serait moins glamour, quoi.
C'est clair.
Ouais.
Et je sais pas pourquoi, mais par contre, ce que je remarque, c'est que c'est beaucoup, beaucoup de mecs très introvertis qui sont là, que ça leur donne une place dans la société, dans mon gymnase. Ça leur donne de la force et ouais, une place. Et donc, il y avait des réactions un peu, entre guillemets, agressives quand moi, j'arrive hi-hi-ha-ha sans but, machin. Mm. En fait, je crois que ça les agaçait un peu. Et je me rends compte que c'est beaucoup un sport d'introverti et je sais pas pourquoi.
C'est vrai, t'as raison.
Trop intéressant.
J'avais observé ça aussi. On avait une association sportive au collège et il y avait ping-pong. Et la majeure partie des mecs qui faisaient du ping-pong, et en plus qui étaient forts,
ils
allaient en compète et tout,
Bah,
c'était très souvent les mecs très très introvertis, qui avaient très peu d'amis, qui n'arrivaient pas vraiment à se faire une place au sein de la classe. En plus, au collège, on sait que c'est compliqué. Et oui, t'as raison, mais par contre, je peux pas l'expliquer non plus.
C'est hyper fun en plus, en vrai, c'est un sport.
Mais c'est génial, hein.
Moi, je me tape des barres.
Ouais, ouais.
Alors, je suis seule, hein, du coup. Puisque...
tu passes ton bon moment. Hein,
mais tu sais, les gens en face, ils sont serrés. Moi, j'ai la bombe. Bah, je veux rigoler. Tu vois.
Ouais.
Mais remettons le ping-pong en mode
c'est
cool.
C'est trop cool. Je crois que la dernière fois que j'ai entendu parler de ping-pong, c'était au collège, effectivement.
Mm.
Et c'est certainement la dernière fois que j'en ai fait, ou peut-être en vacances une fois,
d'accord.
Mais voilà quoi.
Exactement.
Alors qu'effectivement, t'as raison, c'est cool. Moi, j'avais plutôt des bons souvenirs du ping-pong.
Ouais, le badminton aussi, c'était les trucs un peu sympas qu'on faisait au collège. Moi, je sais que le foot, c'était l'enfer. Pour moi, en tout cas, moi, j'étais nulle. Donc, quand il y avait des sports comme ça, c'était plus sympa.
Ouais, je suis d'accord.
Là, on est en face, les bureaux de Mademoiselle, c'est en face de la Gaîté-Lyrique, qui a un petit square aussi à côté. Et dans ce square-là, il y a des tas de ping-pong en accès libre.
Mm.
Et en fait, maintenant, j'y joue parfois avec un pote.
Ah, trop bien.
Mais attendez, vous vous rendez compte que là, il y a une team ping-pong?
Mais de ouf. Enfin, je sais pas. Comment ça va partir en tournante?
C'est tellement bien. Ah, j'adore les tournantes en plus, c'est tellement bien.
Titre.
Comment ça va partir en tournante?
Mais c'est trop bien que tu fasses ça.
Oui, bah, ça rend les pauses déjeuner un peu plus ludiques, quoi.
Vous avez un petit niveau ou pas?
Archi pas.
Ah ouais, ça y est, ça pose direct ce genre
non,
de questions, quoi.
Non, mais parce
qu'en
vrai,
alors moi, je suis une émotive.
Toi, tu es ?
Je suis une émotive.
Très bien.
C'est-à-dire que je pense que je suis vraiment... J'ai du potentiel pour être très bonne. On passe un match, je vais perdre. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que je me mets dans cette posture-là. C'est faut que je travaille
dessus. Quand tu gagnes, tu pleures.
Ça m'est pas arrivé très
souvent. Ah, pardon, désolé. Well, le podcast du malaise.
Est-ce que toi, oui, Anthony ?
Non, mais, non, mais je crois qu'on compte même pas les points. En fait, on fait juste des échanges mais c'est trop cordiaux, sympa. Amicaux. Voilà, je déteste la dimension de compétition. Enfin, la compétition en général.
Ouais.
Du coup, je fais jamais de sport dans un esprit de compétition, quoi.
Mmh. Je comprends.
Du coup, tu viens avec ta petite raquette.
Non,
et...
c'est lui qui les ramène.
D'accord.
J'en ai pas. J'en
ok.
Ai pas.
C'est trop
si une
sympa.
Marque veut m'envoyer un truc.
Pas. Mais moi, je me dis
Vuitton,
demain, Chanel
exemple,
fait ça. Ouais, c'est ça.
Ils en font.
Hermès,
ils en font.
Ça doit être.
Ah ouais, ils font.
Si vous suivez les vlogs d'août de Léna Situation, une fois, elle avait reçu tout un set de ping-pong. Non,
oh
alors du tennis de. Attends.
Du tennis
de
plage.
Ping-pong ou... Ouais,
oui,
je sais pas comment ça s'appelle.
Du beach,
des raquettes, quoi.
Ah
oui,
les raquettes de plage, quoi. J'étais là, du beach ping-pong. Le mec, il est tellement stylé que le gars, pardon, il fait du beach ping-pong.
Mais...
Non, j'excuse pas les termes parce que je suis vraiment pas sportif. Et du coup, elle a reçu ça et c'était... j'étais là, waouh. En fait, il me faut ça dans la vie pour me sentir complet.
Ah ouais.
Mais vous savez que vous venez de me raviver des petits souvenirs que je n'avais plus depuis des années. Et là, j'ai revu le début du cours de ping-pong au collège où tout le monde se ruait sur le bac en plastique pour essayer de choper les meilleures raquettes. Et moi, je me tapais toujours la raquette pourrie avec le manche qui se décolle et tout.
Se détache,
et je disais,
là,
bah, si je perds, c'est normal aussi.
C'est ton
c'est
inconscient
fou.
Qui...
Oui.
Non, mais et en plus de ça, il y avait ceux qui avaient déjà leur raquette. Parce que les mecs, ils jouaient en club et tout. Ouh, ils avaient leur raquette 5 étoiles, machin.
Attends, ah, si, t'as ta raquette, Pauline?
Alors moi, je l'ai commandée, j'attends de la recevoir. Effectivement, elle est plus lourde que les raquettes que j'ai, genre qui viennent de chez Carrefour ou Jiffy, quoi, tu vois. Il y a une petite différence.
Ouais.
J'avoue.
Non, je suis... ouais, okay.
Mais c'est trop cool. Génial. Que t'aies joué. Toi, tu dois avoir un niveau de malade, du coup, si t'as...
En vrai, ils m'avaient appris pas mal de trucs. Eux, ils étaient trop forts. Franchement, ils avaient 8-9 ans, ils étaient trop forts. Donc, ils m'avaient appris quelques trucs et tout. Mais surtout, ce qui était adorable, c'est que vraiment... c'était quasiment que des garçons et ils voulaient trop m'apprendre.
Oh.
Ils étaient pas du tout à chaque fois, ils voulaient trop que je joue, ils étaient trop contents quand je jouais avec eux, ils m'apprenaient un peu à faire des effets et quand je les éliminais, ils étaient trop contents, ils étaient en mode bravo Ariane et tout. Non, vraiment c'était trop bien. Mais je peux pas dire que j'ai un petit niveau, je suis pas nulle. Donc j'arrive à faire des échanges, parfois un peu à faire des smatchs et tout.
Ouais.
Mais c'est pas non plus
Oui, on doit être pareil.
Ouais, voilà.
Voir toi peut-être mieux que moi, parce que moi je fais des petits coups de connasse, parce que comme je sais pas se matcher, tu sais, je suis là avec les petits coups un peu en mode snake, là, sur tout sur le côté, tu vois.
Ouais, j'ai compris. Ouais.
Là, on est rentré dans
carotte.
Une conversation d'experts.
Oui, pongiste, pardon.
Non, mais grave. Okay. Mais peut-être qu'il y a des pongistes parmi les auditrices de LMK, donc n'hésitez pas à nous dire. Hein,
À
nous.
Non, ça marche pas.
Avez-vous compris cette blague? Venez nous le dire en commentaire. Oui, en tout cas, n'hésitez pas à envoyer aussi vos petits messages à Pauline pour lui dire si vous faites partie de cette team-là ou pas, quoi. Tu vas recevoir.
Tu sais que j'ai des copains avec qui jouer, ça fait vraiment la meuf seule. Tu vois, qui...
Non, on a compris que Jean-René, 72 ans, était ton coéquipier ou partenaire.
Il y a Denis, il y a Alain, je vanne pas.
Incroyable, j'adore.
Bah, super.
Ariane, toi qui es, du coup, si j'ai bien compris, la deuxième pongiste de ce LMK, c'est quoi ton kiff?
Alors, cette semaine, je vais vous parler d'un documentaire qui est disponible sur YouTube. Ce documentaire, il s'appelle « En quête du cabanon ». C'est réalisé par Louane Carmona et Noura Keïta. Louane Carmona, vous la connaissez peut-être. Elle s'appelle Louane Mancho sur YouTube. Et c'est une meuf qui fait des vidéos. Je dirais que c'est assez éclectique. Parfois, c'est drôle. Parfois, c'est des sortes de petits... Qu'est-ce qu'il y a?
Parfois, c'est drôle. Parfois, non.
Ouais. Non, c'est pas ça que je veux dire. Parfois, c'est vraiment des vidéos humoristiques. Et d'autres fois, c'est plutôt des carnets de bord, des discussions. Parfois, elle fait juste des vlogs. J'adore regarder ses vidéos, c'est super. Ce documentaire-là, en l'occurrence, il fait 1h17. Je crois que c'est une des vidéos les plus longues de sa chaîne. c'est même sûr. Et elle l'a sortie il n'y a pas si longtemps que ça sur YouTube. Elle a même fait une avant-première au cinéma pour le présenter parce qu'en fait, de quoi ça parle ? Depuis que Louane est toute petite, ses grands-parents et aussi un peu son père lui parlent avec des étoiles dans les yeux des souvenirs qu'ils ont d'un cabanon au Maroc. Il lui raconte comme ça tous les moments passés, quand ils étaient jeunes, les enfants, leurs amis qui venaient, toute la famille qu'ils ont accueillie dans ce cabanon-là. Louane, elle se met en tête d'aller retrouver ce cabanon-là, qui aujourd'hui n'était plus vraiment... il appartenait toujours à la famille, mais il n'était plus vraiment utilisé pour les vacances, etc. Dans le documentaire, Louane... En gros, elle fait le récit du voyage qu'elle va faire jusqu'au Maroc. Déjà, c'est un voyage qu'elle fait entièrement en train et un peu en bateau. Elle emmène, on va dire, trois de ses amis avec elle pour aller à la découverte de ce lieu, sachant qu'elle a des photos qui datent des années genre 80, mais en fait, elle ne sait pas ce qu'elle va trouver. Si ça se trouve, le truc est en ruine, il va rester trois planches et voilà. Elle passe donc d'abord par le sud de la France pour aller chercher certains de ses amis. Puis elle va en Espagne, elle va à Madrid, puis à Cordoue. Elle visite avec ses amis. Ensuite, elle va à Gibraltar pour prendre le bateau pour aller au Maroc, à Casablanca, où elle va retrouver sa grande tante Violette et son mari Charles. Et donc, c'est plein de scènes de vie comme ça qui s'entremêlent entre eux, des scènes... hyper touchante de famille, quoi, de souvenirs qui sont racontés comme ça par ses grands-parents, par sa grande-tante, par d'autres amis de la famille aussi. Des scènes un peu plus, je dirais, vloguesques de juste elle et ses potes qui s'amusent, qui se racontent des trucs, qui vont faire la fête dans des villes qu'ils connaissent pas. Ils sont là avec leur sac à dos et c'est un peu la vadrouille, quoi. Ce qui était touchant dans ce documentaire, j'ai trouvé, c'est que c'est vraiment le récit du voyage qui est fait, et pas tant de la destination. Du coup, je vous spoile pas trop la fin. J'ai adoré ce documentaire parce que, déjà, les histoires de famille, moi, ça enfin, les familles qui s'aiment, ça me donne envie de chialer. Oui, évidemment.
T'as pleuré, justement ?
Bien sûr, j'ai pleuré, mais de toute façon, moi, c'est pas très compliqué. Et en fait, elle arrive vraiment à partager le fait qu'elle est hyper émue d'aller un peu sur les traces de l'histoire de ses grands-parents qui ont grandi au Maroc, qui puis après sont rentrés en France, de retrouver des membres de sa famille qu'elle n'avait pas vus depuis des années, de partager ça avec ses amis, des amis qu'en plus, qui ne se connaissent pas à la base. Enfin, c'est des amis, comment dire, ils sont tous amis individuellement avec Louane, mais ils ne se connaissent pas. Donc, on voit aussi un peu la façon, leur façon d'apprendre à se connaître tous ensemble. Donc, non seulement il y a ces histoires de familles qui s'aiment, en plus des histoires intergénérationnelles, en plus il y a des histoires d'amitié, on voit que ça crée des liens, etc. Et la raison pour laquelle ça me touche encore plus, c'est que c'est une histoire de voyage. Et moi, je voyage pas beaucoup. J'ai assez peur des trucs que je connais pas, des pays où je parle pas la langue. Moi, vraiment, ma connaissance du monde, du vaste monde, ça s'arrête un peu à peu près à l'Europe. Et encore, j'ai vraiment pas fait du tout tous les pays. Principalement l'Italie, vu que ma mère est italienne et que du coup, je parle la langue, donc ça me rassure. Et donc, j'adore les récits de voyage. Ça me paraît être parfois des choses complètement inatteignables pour moi, mais... les belles images de paysages, les images de voyage en train, de voyage en bateau, de gros sacs à dos, c'est quelque chose que je connais pas du tout. Les choses un peu roots, les voyages en van, le camping et tout, j'ai jamais expérimenté, mais ça me fait un peu rêver quand même. Peut-être qu'un jour j'arriverai à sauter le pas. C'est pas le cas pour l'instant, mais j'espère que je ferai ça dans ma vie. Et voilà, donc le documentaire s'appelle « Enquête du cabanon ». Il est réalisé par Louane Carmona et Noura Keita. Et il est dispo sur YouTube et je vous le conseille vivement. Voilà,
trop
ça
bien.
Ça donne envie. Hein.
Ouais, grave, ça donne grave envie. Je voulais juste rebondir sur un truc. C'est que pour les gens qui écoutent, qui ont écouté les épisodes précédents de LMK, t'as souvent dit que tu craignais de partir de chez tes parents, enfin ouais. Que ça se passe moins bien de partir de chez tes parents, parce que Ariane a emménagé dans un appart récemment. Je fais le brief pour Pauline. et au final, tu disais la dernière fois que ça s'était super bien passé.
Ouais.
Est-ce que t'as peur de voyager, de partir, ne serait pas un peu la même ?
Non, mais je pense que c'est lié, en fait. Surtout que mes parents et moi, enfin, mes parents ne sont pas du tout des gros baroudeurs. Pas du tout, du tout. C'est-à-dire que nous, les vacances, c'est bord de mer, 15 jours, hôtel, ciao, quoi. C'est vraiment genre étoile de mer et voilà. Donc, c'est vrai qu'ils m'ont pas trop transmis le truc de l'aventure, mais je pourrais clairement le créer moi-même. Et le comble, c'est que la majeure partie de mes amis sont des grosses baroudeuses qui font de ouf des trucs à l'autre bout du monde avec leur sac à dos.
Et tu les as jamais suivis?
Je les ai jamais suivis, mais j'ai toujours trouvé des excuses, tu vois. Ah non, ça coûte un peu cher.
Ce serait trop cool que tu te fixes des objectifs, commencer par un petit week-end et puis voir ce que tu ressens. Des petits objectifs atteignables.
Je suis déjà partie un week-end seule et c'était pas ouf. Franchement, j'ai pas trop aimé.
Ça, c'est pas pareil.
Ouais, c'est vrai.
Et t'es allée où?
À Saint-Malo. Ambiance. Il faisait moche.
Il y avait du vent.
Ouais, il y avait du vent, de la pluie, mais pas de la pluie franche, tu vois.
C'est des villes et des régions où s'il fait moche, tu restes un peu à l'intérieur, quoi.
C'est ça. Après, je suis contente parce que je suis allée voir le Mont-Saint-Michel et j'avais envie vraiment de voir le Mont-Saint-Michel depuis longtemps. Et je m'étais dit, arrête d'attendre que quelqu'un veuille venir avec toi, en fait. T'y vas et puis c'est tout. Et de fait, c'était magnifique. Et franchement, je suis trop contente d'avoir fait ça seule. Mais c'est vrai que c'était pas le séjour le plus épanouissant pour moi, quoi. Mais oui, j'aimerais vraiment partir en voyage un jour.
Cet été, j'ai fait une croisière en bateau avec mon cousin Germain, qui est un grand navigateur. Il adore ça. Et
trop
ses copains.
Bien.
Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais une petite princesse.
Ouais.
Parce que je ne savais pas.
Ouais.
Je pensais grave être la meuf qui adore la rando et tout. Non, en fait, je suis vraiment une princesse. J'ai pleuré quand j'ai vu ma cabine, à quel point elle était petite.
Ah ouais.
Je me suis cachée, j'ai pleuré.
Oh non!
C'était de combien de temps? Deux semaines?
Non. 5 jours?
Cinq jours, ok.
Bah, ça peut
mais
être
attends, oui, ça peut être long, c'est clair.
Le tuyau, tu sais, t'es en maillot de bain, t'as le tuyau pour te laver, mais t'as pas de savon, et puis tu sors jamais du bateau.
Ouais.
Et puis ça tangue tout le temps, en fait, ça s'arrête jamais de tanguer. Enfin, je te comprends.
Mais je suis comme toi, Pauline. Moi, j'aime bien l'idée j'aime bien la carte postale. Genre, j'adorerais quand on était petits avec mes parents, on campait. Et je me souviens que j'aimais ça moyennement. Genre, je me disais, ce serait cool d'être dans un hôtel, justement. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai des potes qui ont des enfants, qui font faire des tours de je ne sais quel pays à vélo, camper et tout. Et sur le principe, je trouve la carte postale géniale. Je suis là, genre, j'adorerais faire ça. Mais en fait, très concrètement, je sais que si je le faisais, je dirais à mon mec, non, en fait, juste là, on se pose, on book un hôtel et...
En fait, je pense qu'il y a des strates dans ta vie où tu commences... quand je suis arrivée à Paris, j'avais un 9 mètres carrés, j'avais free wifi, tu vois, et puis un jour, t'as une box, puis un jour, t'as un 20 mètres carrés, ben c'est pareil avec les vacances. Maintenant, je veux un hôtel, en fait.
Ouais.
Tu t'installes un peu dans le confort vers lequel...
Mais c'est ça que je me dis, c'est que j'ai peur que si j'attends trop, après, en fait, je pourrais plus revenir en arrière parce que quand t'es jeune, t'es beaucoup plus roots que quand tu avances dans l'âge. Enfin, mais non, mais c'est vrai.
Après, t'es chiant.
On est chiante. C'est pas ça, mais bon, tu préfères le confort. T'as aussi les moyens d'avoir plus de confort.
Moi,
les moyens.
Le confort depuis un an, je pense, vraiment.
Ouais.
Merci.
Non, mais je suis d'accord.
L'avantage n'empêche pour les jeunes, vraiment l'impression d'avoir 50 ans en disant ça, mais c'est aussi qu'il y a des tarifs réduits en vrai pour notamment il y a plein de comptes Instagram pour voyager en train tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont moins chères. Je l'ai pas fait quand j'avais l'âge de le faire et en vrai je me dis c'est bête.
On est un peu conne en fait.
Mais c'est cool l'hôtel quand même, non?
Les petits peignoirs là, les petits chaussons
qui ont encore 22 ans.
Merci Ariane pour ton kiff qui était vraiment trop cool et franchement n'hésite pas à te lancer et viens nous raconter comment ça se passe. Ouais.
Nous, on t'écoutera dans nos peignoirs d'hôtel.
Ouais, voilà.
Ça sera bien. Anthony, c'est quoi ton kiff cette semaine?
Alors, mon kiff, c'est un spectacle d'un humoriste génialissime que j'adore qui s'appelle Lou Trottignon, qui joue un show qui s'appelle Mérou depuis bientôt un an maintenant. Sa particularité, c'est en fait il évoque plein de choses différentes de sa vie, c'est assez autobiographique, donc il évoque notamment son passage par le BDSM, le striptease, le travail du sexe, mais beaucoup sa transition de genre en fait. Et ça fait un an qu'il le tourne et le début du spectacle a relativement coïncidé avec le début de sa transition hormonale. Et du coup, ça fait évoluer l'écriture du spectacle aussi, parce qu'il lui arrive des choses dans sa vie qui l'intègrent au spectacle. Notamment récemment, il a eu une mammectomie et en fait il l'évoque maintenant dans son spectacle depuis septembre 2023. Et bref, tout ça pour dire qu'il est vraiment giga hilarant. Et en fait, je peux pas vous raconter un spectacle de stand-up, mais c'est vraiment trop drôle. Enfin, notamment le titre, il peut interpeller Mérou comme le poisson. En fait, le Mérou, vraiment, le poisson change de genre dans sa vie. Naturellement, dans la nature, le mérou est un poisson qui change de genre.
Oui, il a pas pris des hormones, lui. Ouais,
quoique, les poissons, enfin, c'est pas pour ça qu'ils changent de genre. Mais il faut savoir, il faut sachez que, comme dirait Amélie Nathan, que, en fait, je crois qu'il y a tellement de pilules hormonales prises par les humains.
Wow.
Qui sont déversés dans l'eau des mers, mm-hmm. que les poissons les ingèrent mm-hmm. et ça leur pose des problèmes hormonaux, notamment de stérilité, voire d'autres troubles, bref, endocriniens. Mais rien à voir avec le mérou, rien à voir avec le trottignon, c'est pas du tout ça que je voulais vous raconter.
Mais trop intéressant quand même.
Non, c'est vide la terre. En tout cas, il se compare beaucoup au mérou, ce qui est assez surprenant, parce qu'en fait, quand il était plus jeune, ado, il raconte justement que son but dans la vie, c'était de devenir un mérou. Genre, il y a des gens qui rêvent de devenir avocat, juge, médecin, que sais-je, ou ébéniste. Et lui, il voulait devenir un mérou. Parce qu'il disait, mais en fait, moi, mon but dans la vie, c'est de transitionner, en fait. Il a été assigné femme à la naissance. Et quand le spectacle débute, en fait, il raconte que plus jeune, il se disait, mais en fait, moi, je suis pas une femme. Je sais pas encore qui je suis, mais je suis pas une femme, en fait. Et c'est hyper intéressant parce que ce que j'ai adoré dans son show, c'est qu'il raconte à quel point il doute, il se questionne, il n'a pas de réponse fixe. Et ce que je trouve hyper agréable, c'est qu'en fait, finalement, ce qui nous autorise aussi à penser, c'est que le doute peut être une identité. Il y a beaucoup de choses à vivre, il y a beaucoup d'épanouissement aussi à trouver dans le doute, dans le fait de ne pas se fixer et que les identités sont fluides. Et c'est assez merveilleux et ressourçant d'écouter ça, en plus de se taper des barres du début à la fin. Enfin, et surtout, il joue principalement à Paris à la Nouvelle Scène, qui est un espace qui est dans une péniche, qui est... très très sympa, enfin, le resto est trop cool. Je crois que d'ailleurs en ce moment il y a la Big Bertha, la drag queen qui est en résidence là-bas.
J'ai fait des lives de la leçon là-bas. C'est vrai que Jessie, elle est incroyable.
Ouais, ouais, la directrice artistique Jessie est vraiment super. Et justement, toute la programmation est géniale. Enfin, il y a des humoristes que j'adore qui jouent là-bas, comme Tani ou Noam Sanso ou Mao Drama. Beaucoup d'artistes queer et c'est assez rafraîchissant d'écouter ça, que des artistes féministes, j'ai l'impression, et vraiment c'est brillant quoi. Et surtout, ça fait aussi qu'on se sent en sécurité. Du coup, ça fait qu'on peut faire sur scène ou même en tant que spectateur, spectatrice dans le public, on sait que ça émane d'un espace relativement safe et du coup, en fait, ça fait grave du bien de pas rester sur ses gardes. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé d'aller dans des shows où l'humoriste fait une blague homophobe en plein milieu et je me dis, oula, c'était pas pour moi. J'ai envie de partir.
Ouais, c'est clair.
Je me rappelle notamment une fois, j'étais allé avec un de mes ex, enfin, mon premier amour, voir un spectacle. Je vais pas nommer l'humoriste, si, Farid.
Je vais pas nommer l'ex.
Ah, non, Farid n'est pas mon ex. J'allais dire hélas parce qu'il est très beau, mais en fait, non, pas hélas. Quoi qu'il sort avec une designer de Amina, chaussures que j'adore, ouais. Amina Mouadi, qui fait des talons pyramidaux magnifiques. Bref, trop digression.
Je sais plus de qui tu parles, de ton ex ou de.
Non, mais une fois que je suis allé voir avec mon ex, qui avait payé genre des places en carré or, une fortune, parce qu'on m'a dit que c'était génial et tout. Je me ramène et le mec fait des blagues misogynes pendant la moitié du show. Après, c'était il y a 5 ans, tu vois. Peut-être que ça a changé.
Non, il y a 5 ans, c'était pas Mathusalem non plus.
Non, mais lui, peut-être qu'il a changé.
On espère,
on lui souhaite de grandir. Et c'était abominable. Et je me sentis agressée du début à la fin du spectacle.
Horrible.
Enfin, vraiment, j'avais détesté. Quoi. Enfin, j'avais envie de partir, mais j'avais payé trop cher. Donc, je suis restée.
Ouais, je comprends.
Et vraiment, payer pour être agressée, c'est pas des lol. Donc, aller voir Lou Trottignon, les yeux fermés, parce que je savais que la Nouvelle Scène, il n'y avait qu'une programmation géniale, en fait. Et j'ai adoré. Enfin, vraiment, c'était brillantissime. C'est hyper bien écrit. Il y a des blagues, parfois, un peu d'humour noir, mais c'est pas l'essentiel de son show. Enfin, il a un ton assez cynique tout le temps, mais il y a vraiment des blagues où tu ris à gorge déployée. C'est pas juste du pain sans rire. Et c'est assez accessible parce qu'en fait, t'as beau avoir une scène essentielle, enfin, une audience, pardon, essentiellement composée de femmes et de personnes LGBT+, même si vous êtes pas de ce bord-là. Non, je rigole. Même si vous n'êtes pas une femme ou LGBT+, c'est assez accessible en fait, parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'être archi éduqué sur ces questions-là pour comprendre le show. C'est assez accessible à toutes et à tous. Enfin, je pense que je pourrais y traîner ma mère de 60 ans et elle comprendrait, quoi. Et elle sait pas ce que ça veut dire intersectionnalité. Donc, vraiment, c'est accessible. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien de savoir que la personne sur scène n'est pas là pour t'agresser, évidemment. Ouais. Et les gens dans le public non plus. Enfin, c'est un espace aussi qui est ressourçant, enfin, même dans le public, je veux dire. Du coup, c'est un triple kiff parce que pour Lou Trottignon, pour la Nouvelle Scène et pour l'humour en général qui est fait par des personnes, des femmes et des LGBT+, parce qu'en fait, on manque de ça sur scène, je trouve.
Clair.
Et voilà. Et d'ailleurs, j'étais en train de interviewer Lou Trottignon récemment et donc ça vient de sortir sur Mademoiselle quand vous écoutez ce podcast, je pense. Donc voilà,
vous êtes fort en promo. Oh là là, c'est tellement fluide.
Je suis pas sûre de ça, mais merci, merci, on prend compliment. C'est l'art de rebondir après un échec, peut-être aussi, quand je raconte des bêtises sur Farid. Bref. Donc, tout ça pour dire que, de toute façon, j'ai pas besoin de tirer sur un humoriste pour en élever un autre. Enfin, Lou, bravo pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Vraiment,
trop
merci.
Bien.
L'humour français et la France te remercient. Parce que, à ma connaissance, c'est vraiment le seul humoriste trans en France à faire ça, du stand-up, aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a d'autres. En tout cas, on espère qu'il y en aura plein d'autres. Et c'est ce que Lou raconte dans l'interview qui est publiée sur Mademoiselle, c'est que ça commence à bouger. Et en fait, je trouve qu'il questionne et il contribue à déconstruire les questions de binarité dans l'humour et pas que. Enfin, dans la société en général. Et on a besoin de ça. En fait, ça fait un bien fou. Enfin, il élargit tout.
C'est
trop bien.
Trop intéressant. Ça donne grave envie.
Et je vais y aller, je pense.
Bah, allez-y. Et c'est pas que à la nouvelle scène. Nous ne sommes pas un podcast de parisiens et parisiennes pour les parisiens et parisiennes.
coup... Fanny, elle a l'air de dire bof bof avec sa main.
Oh, j'allais faire un kiff sur Caen. J'allais faire un kiff sur Lille. J'avais plein de trucs à dire, mais j'ai pas le temps. Donc invitez-moi plus souvent dans les
le Caen RPZ.
mais vraiment, Caen, j'ai adoré. Vraiment plein de librairies à vous recommander. Un restaurant farfelu à vous recommander aussi. Mais ce sera pour un autre LMK. Et à Lille, une librairie que j'adore, La Franchie, vraiment, allez-y, brillantissime, sois-y que tu gères. Mais donc, Lou Trottignon, pour en revenir à nos moutons, ou à nos mérous, je dirais qu'il joue à Paris tous les jeudis à 19h30 jusqu'au 21 décembre 2023, à Toulouse les 3 et 4 novembre, à Bruxelles le 18 novembre, mais c'est déjà complet, à Bayonne le 1er et 2 décembre à 20h30, et à Avignon le 16 décembre à 21h, et toutes les infos sont sur son Instagram et dans son Linktree, comme disent les jeunes. Voilà. Et en description de l'épisode, évidemment.
Link in bio. Pardon. Et dans la bio, les amis. Merci, Anthony. C'était trop cool. Ouais. Comme kiff.
Merci à vous.
Ça donne très, très envie.
J'ai des super idées, là.
Allez soutenir les humoristes près de chez vous.
Ouais.
Et toi, Marie-Stéphanie, c'est quoi ton kiff?
Alors, la dernière fois, dans le dernier épisode, Fanny m'avait dit « ça suffit, tes kiffs, ils sont déprimants, en plus tu parles tout le temps de livres, bref, essaie d'innover ». Eh bien, je vous annonce que je n'ai pas innové. Donc voilà, je voulais parler des légumes rôtis au four qui sont ma passion en automne et en hiver. Mais bon, visiblement, j'en ai déjà parlé dans ce podcast, c'est pas grave. Donc je me suis rabattue sur ce qui occupe mes soirées en ce moment, à savoir lire des bouquins. Et c'est plutôt cool. Et j'avais envie de vous parler d'un livre que je suis en train de lire. Donc je l'ai pas terminé, mais le pitch est suffisamment bien et nécessaire pour que je vous en parle. Ce livre, vous l'avez peut-être et très certainement vu passer sur les réseaux sociaux parce que je trouve qu'il y a une assez grosse communication autour et c'est tant mieux. C'est le livre « Femme, vie, liberté ». Sous la direction de Marjane Satrapi, aux éditions L'Iconoclaste. Et c'est en fait une BD, ou en tout cas un recueil de textes illustrés. Femme, vie, liberté, ça vous dit peut-être quelque chose, ce slogan qui en fait a été... est devenu un peu un emblème suite à l'assassinat de Mahsa Amini, qui est donc cette jeune femme qui, le 16 septembre 2022 en Iran, a été assassinée par la police des mœurs parce qu'elle n'avait pas bien porté son voile. C'est un événement qui a été le point de départ d'une... une poudrière pour la contestation sociale qui s'en sont suivies, qui ont été assez violentes, dont on a en fait beaucoup eu l'écho dans les médias en France depuis le mois de septembre. Marjane Satrapi, c'est aussi c'est une autrice dessinatrice de bande dessinée qui est assez connue. Tu citais tout à l'heure Persepolis, absolument extraordinaire, et elle-même est iranienne, et en fait dans Persepolis elle raconte son enfance en Iran quand elle a dû quitter son pays, que sa famille a dû quitter son pays pour des raisons politiques et c'est vraiment extrêmement intéressant. Déjà Persepolis c'est hyper intéressant parce qu'on comprend un petit peu mieux le contexte social, géopolitique, donc je vous recommande carrément de le lire. Alors Donc, sur le papier, ce livre, effectivement, ne semble pas bien joyeux. et pourtant, pour le réaliser, donc je disais, c'est sous la direction de Marjane Satrapi. Pour le réaliser, Marjane Satrapi, elle a réuni des experts, donc trois spécialistes. Farid Vaïd, qui est politologue, Jean-Pierre Perrin, qui est grand reporter, Abbas Milani, qui est historien, et 17, je cite, des plus grands talents de la bande dessinée, qui, en fait, tous et toutes se sont... ont collaboré pour pas uniquement raconter l'événement, mais alors évidemment quand même raconter l'événement, mais aussi raconter tout le contexte autour et ce qui en fait un kiff positif. On dirait que je suis hyper rancunière alors que pas du tout. C'est juste que j'ai pas eu d'imagination pour un truc un peu plus joyeux. Donc en fait le livre s'organise en deux parties. La première partie c'est un récit des événements. Donc c'est hyper détaillé, c'est vachement bien fait. Du jour de l'événement, donc de l'assassinat de Mahsa Amini le 16 septembre 2022, à la naissance de ce slogan Femme, vie, liberté, en passant par toutes les manifestations qui s'en sont suivies en Iran, à également la révolte des jeunes femmes et hommes de cette jeune génération iranienne. Et en fait, ça raconte, donc à chaque fois, c'est une dessinatrice ou un dessinateur différent, un spécialiste différent. Donc, ça a l'avantage d'être hyper varié en termes de dessin et de propos. Et la seconde partie, qui s'appelle Un peu d'histoire, revient sur les quelques siècles qui se sont écoulés dernièrement en Iran et d'où vient en fait... Ah, c'est en trois parties, j'ai dit une bêtise, c'est pas en deux parties, parce que je suis pas encore à la troisième partie. D'où vient... quelles sont un peu les racines de ce contexte politique et social en Iran. Et la troisième partie, c'est un régime de fer, un peuple qui résiste. Donc, c'est davantage de portraits, par exemple, de figures qui ont fait la manifestation, les manifestations récentes en Iran, des femmes comme Nasrin Sotoudeh ou Narges Mohammadi, qui sont un peu des symboles de la dissidence iranienne. Donc voilà, je vous en dis pas plus. C'est vraiment juste une petite mise en bouche sur ce livre qui est cette ouvrage qui est, à mon sens, totalement nécessaire pour comprendre. En fait, c'est pas juste comprendre les événements de cette année qui vient de s'écouler, mais comprendre le contexte social, politique de l'Iran. Pour moi, c'est un livre qu'il faut lire parce que c'est important de savoir d'où viennent les conflits actuels, quels qu'ils soient dans le monde, d'où viennent les tensions politiques, géopolitiques, les contestations sociales, parce qu'il y a toujours évidemment une source derrière tout ça et que c'est passionnant. Et en plus, ce livre est magnifique. Mm-hmm. Je vous le recommande. Et promis, la semaine prochaine, j'aurai un kiff un peu plus léger.
Les fruits au four.
Voilà.
Les compotes.
Ne sous-estimez pas les crumbles, c'est vraiment absolument délicieux.
Ah bah oui, oui.
Bah, ça me donne faim d'ailleurs. C'est la fin de ce podcast. Merci infiniment, Pauline,
merci
d'avoir participé,
merci.
De t'être jointe à nous.
Merci, Pauline.
Et puis, écoute, tu reviens quand tu veux, surtout dans LMK.
Non, mais attention, je vais être là tous les jours.
Avec plaisir. Mais avec grand plaisir. Et puis, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui te découvrent, vous pouvez retrouver que ce soit le podcast, le livre ou même ta page Instagram. On mettra tout ça dans les notes de l'épisode. Comme ça, vous aurez toutes les infos et vous pourrez en savoir plus sur la leçon. Allez l'écouter. Et peut-être vous procurer le livre aussi et puis suivre tes actualités.
Merci beaucoup, je me suis trop marrée, c'était trop rigolo, ça fait du bien des cafés comme ça, j'adore.
Trop bien, écoute, merci à toi et merci à vous deux aussi, Ariane et Anthony, et à vous qui nous avez écoutés.
J'ai adoré.
Merci tout le monde, merci la même cœur. Peace you.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.